Eh ben, pas de message aujourd'hui. Et non, le répondeur est en panne. Il y a eu un bug sur le répondeur de la base si j'y suis. Ça vient tout juste d'être réparé. Donc, ça y est, on peut recevoir vos messages au 01 56 40 37 37. Mais voilà, les messages précédents, eh ben, ils sont perdus dans le cosmos. Ah, ce sera peut-être des bonnes choses qui nous arriveront à tous. En tous les cas, ce que je vous souhaite et ce que nous nous souhaitons. On souhaite aussi évidemment une issue, mais on est très très pessimiste sur ce qui se passe à Gaza actuellement, où se vérifie un principe de propagande qui est comment le mensonge est difficile à réfuter. Le principe, c'est que l'effet immédiat du mensonge est beaucoup plus puissant que la réfutation, qui vient plus tard et qui ne reçoit jamais la même attention. Et suivez bien ce qui se passe, le mensonge, ça paye, ça marche, et après, pour dire le contraire, pour dire mais non, c'est faux, etc., on se perd, il y a moins d'attention, et donc la propagande marche à fond en ce moment. Évidemment, c'est une situation ultime, mais ça marche aussi en général dans le système de la désinformation. On va aujourd'hui revenir sur un reportage d'octobre dernier. On s'était posé une question avec Pascal Pascariello. Oui ou non, y a-t-il des sans-papiers sur les chantiers Bouygues? Puisque Bouygues prétend qu'il n'y a pas de sans-papiers sur ces chantiers. Alors, on s'est penché sur cette histoire et ça a donné le reportage que vous allez suivre, si vous voulez bien, jusqu'à 16h. C'est assez intéressant, c'est assez passionnant, et il se pourrait bien que ça corresponde à ce que je viens de vous dire sur le mensonge et sa réfutation. Disons que ça, c'est une heure de réfutation.
Ils construisent des raffineries de pétrole au Cameroun, ils montent des installations portuaires au Maroc, ils lancent des ponts au Koweït et font pousser en plein désert une université complète en Arabie Saoudite. Ils, ce sont les hommes au badge orange, 20 000 hommes dans le monde entier, plus un, le patron, Francis Bouygues. Un patron heureux qui n'a pas peur d'afficher des bénéfices substantiels à faire pâlir tous ses concurrents. La clé de la réussite, on l'affirme sans complexe dans le groupe français, il y a une méthode Bouygues, l'essentiel, être le meilleur, avoir une idée et des méthodes pour l'appliquer.
Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités.
Francis Bouygues.
Et ils ont une qualité fondamentale pour moi, employeur.
1969.
Qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler.
Ça fait 9 mois que je travaille pour Bouygues. J'ai pas de papier.
Par contre, ils parlent pas notre langue, ils sont pas tellement qualifiés. Et puis ils viennent avec une idée en tête, c'est d'amasser un pécule et de nous quitter quand ils auront un pécule suffisant.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que s'il avait pensé, qu'est-ce qu'il a fait avec ces étrangers? Ils ont gâché leur vie pour lui. Et chaque fin de mois, qu'il pique des pognons. Un patron, il peut pas monter comme ça.
Je suis très embêtée. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir une réponse des DRH. J'ai rencontré des travailleurs sur papier qui travaillent pour Bouygues, qui ont des badges Bouygues et qui travaillent sur les chantiers Bouygues. Donc ça, j'aurais bien aimé que vous m'expliquiez.
Ça doit être des intérimaires parce que je vous mets au défi de trouver un salarié Bouygues qui est pas régulier.
Alors Engel, c'est les coulisses du bâtiment, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est les coulisses du bâtiment. C'est un événement organisé par la Fédération Française du Bâtiment qui consiste à ouvrir 300 chantiers à peu près dans toute la France.
Donc là, on est à l'Université de Jussieu à Paris. Exactement.
Pour situer le contexte, c'est qu'on est entreprise générale là, sur le site de Jussieu où on réalise 166 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Donc vous êtes...
Moi, je suis Bouygues, bâtiment Île-de-France. Donc moi, Jean-François Chède, je suis directeur de travaux adjoint, donc je suis responsable du projet.
Donc là, on se dirige sur le chantier. Donc là, on est dans une des salles, des futures salles de classe, hein, de cours, j'imagine.
Là, c'est brut de béton, effectivement, ça peut nous pas ressembler.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah, je sais pas du tout. Il y a des gens qui viennent de débarquer sur le chantier, je sais pas ce que c'est.
C'était pas prévu à la visite?
Ah non, je pense pas, non.
Droit devant, il y a écrit quoi sur leur... Vous arrivez à voir, vous?
Excusez-moi, Pascal, faut que j'aille téléphoner. Juste, je fais un coup de fil et je m'occupe de vous, ça ne me dérange pas?
D'accord. Vous faites partie de la Fédération Française du Bâtiment?
Non, GPPF.
Comment?
GPPF Formation.
C'est la chambre syndicale de la peinture de Paris, région parisienne.
De la peinture? Et expliquez-moi, parce que là, on peut plus faire les coulisses du bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des manifestants qui sont arrivés?
Ce sont des sans-papiers qui sont venus manifester. C'est la surprise.
Je pense qu'ils viennent manifester pour les sans-papiers, oui.
Ils ont tous des casques de chantier, ça voudrait dire quoi? Qu'ils ont l'habitude de travailler sur les chantiers?
Moi, je ne sais pas.
Je vais l'emmener, je vous emmène.
Vous m'emmenez où?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Massif, j'y suis avec Pascal Pascardiello. Leurs bras nous sont acquis.
Flight number 2, arriving from...
Alors, il y a tout le monde... Les
on
deux
vous emmène.
Ok, ils arrivent.
Pourquoi il faut évacuer le chantier?
Si ça ne vous dérange pas de venir avec moi, parce que
vous vous réfugiez tous, bonjour. Mais ils ne vont pas vous attaquer.
Mais les consignes, c'est de sortir du chantier, en fait. On est obligé d'arrêter le reportage.
Et là, tout le monde arrête. Vous arrêtez les coulisses du bâtiment aujourd'hui?
Oui.
Je vais vous demander de prendre et nous, par contre, on va vous mettre en sécurité ici, d'accord? Et maintenant, par contre, je vais vous demander de couper votre micro.
Je vous suis, donc... toutes les coulisses du bâtiment, on regagne les bureaux là.
On regagne les bureaux.
Nous, on est en train de regagner les bureaux de la Fédération française du bâtiment.
Là, c'est les cantonnements.
C'est les cantonnements de
Bouygues.
De Bouygues.
Tout à fait, oui.
Les cantonnements, ça s'appelle?
Les cantonnements, oui.
On dirait qu'on est en pleine guerre. C'est des travailleurs sans papier qui sont venus investir le chantier.
Oui. Allez, ils sont montés.
Mais c'est pas dangereux, ils sont pas dangereux.
Ah bah. Les gens de Bouygues nous font évacuer, on ne sait pas, ça peut dégénérer. Hein.
Mais pourquoi ils ne sont pas armés?
On ne sait pas, non, a priori non, mais bon, c'est par mesure de sécurité. Voilà.
Ils occupent tout le chantier là-bas, donc il faut mieux rester.
Et en fait, ils ont tous des casques, c'est ça, c'est les travailleurs sur papier qui...
Ils s'amusent, je veux dire.
Je crois qu'ils sont venus dire qu'ils travaillaient chez Bouygues, c'est ça?
Je sais pas.
Je vais descendre de la tour de Bouygues pour aller peut-être voir les travailleurs sans papier.
Bah, faites attention à vous.
Est-ce que vous pensez qu'ils sont dangereux?
L'effet de masse, ça peut toujours dégénérer.
L'effet de masse, ça peut dégénérer. C'est pas faux. L'effet de masse, ça peut dégénérer. Ça a dégénéré à certains moments de l'histoire. Dégénéré ou régénéré? Bien malin qui saurait faire un bilan historique de ces effets de masse, c'est-à-dire de ces contestations, c'est-à-dire de ces protestations, c'est-à-dire de ces luttes. En voilà une qui dure depuis des années, mais notamment depuis des mois. C'est depuis le mois d'avril notamment, ces salariés sans papier qui demandent leur régularisation. Un certain nombre ont obtenu cette régularisation, mais la lutte continue. Un ouvrier du bâtiment qui vit après 65 ans, c'est un feignant. C'est une petite phrase notée par le sociologue Nicolas Joulin dans son bouquin « Chantier interdit au public ». Ce sociologue a pris le soin de travailler pendant un an sur des chantiers et c'est là qu'il a pris ce genre de notes. Un ouvrier du bâtiment qui vit après 65 ans, c'est un feignant, c'est un ouvrier lui-même qui dit ça. Le bâtiment, c'est dur, c'est très très dur, on le sait depuis longtemps, et c'est encore plus dur pour ces 200 000 à 300 000 sans-papiers qui travaillent sur ces chantiers depuis longtemps et qui aujourd'hui demandent leur régularisation. Quand cette régularisation est généreusement attribuée, il ne faut pas s'imaginer que ces sans-papiers deviennent français, comme un certain président de la République française l'avait suggéré il y a quelques mois. Non, ils ont une autorisation de séjour d'une année qui est renouvelée au bout d'une année. Et évidemment, auprès de l'employeur, c'est un moyen pour cet employeur de fragiliser un peu plus, de maîtriser, et s'il n'y a pas satisfaction et il n'y a pas renouvellement de l'emploi, Et donc, il n'y a pas renouvellement non plus de l'autorisation de séjour. Précariser les étrangers pour tirer le marché de l'emploi vers le bas, c'est l'essentiel de cette stratégie, c'est l'essentiel de cette méthode. On va voir aujourd'hui, dans le reportage de Pascal, cette exigence, cette lutte longue et profonde à travers tout le pays sur des quantités de chantiers, pas seulement d'ailleurs, on l'a vu dans les mois précédents, pas seulement d'ailleurs dans le bâtiment, mais beaucoup dans le bâtiment où ces travailleurs exigent un minimum de droits de reconnaissance. Et ça nous permet de parler de l'entreprise en général, avec ce mot de Noam Chomsky qui disait « Structurellement, l'équivalent politique de l'entreprise est l'État totalitaire ».
On apprécie le citron qu'on peut jeter à peau. On peut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique. Sénégal, Mauritanie, Burkina, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et... Tutti quanti, les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans
l'harmonie.
Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, qu'on l'a bien ratissé, qu'on lui a tout pris. On apprécie le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau, eh ouais.
Oui, c'était dur, ils sont durs de la cuire.
Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale pour moi, employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler.
Je vous m'en parle, oui, c'était dur.
Après tout, c'est pas grave, les colons sont partis. Que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leurs bagages quelques bateaux d'esclaves pour ne pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leur face montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Et encore plus au cœur. Et comme il faut parfois manger et puis dormir, dans les foyers taudis on vit dans le sordide. On apprécie le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau. Eh ouais. Eh ouais.
On est devant les travailleurs sans papier.
Oui, je pense que les travailleurs sans papier ou ont profité des coulisses pour manifester. Je ne sais pas d'où ils viennent. C'est pas forcément des. Je pense pas que c'est des employés de Bouygues. On va lire. Alors, un des travailleurs sans papier nous a donné un papier où il y a écrit justement pourquoi ils manifestent. Est-ce que vous pouvez me lire ce qu'a écrit Engel?
Droit devant pour la régulation globale des travailleurs et travailleuses sans papier. Des centaines de travailleurs sans papier du bâtiment.
Embauchés par le biais d'agences d'intérim.
Avec leur soutien, se sont invités sur le chantier Bouygues. Lors des journées, chantier ouvert au public organisé par la Fédération française du bâtiment.
Tout d'abord, on salue la mobilisation d'aujourd'hui des centaines et des centaines de travailleurs sans papier et leur soutien sur ce chantier de Bouygues, parce qu'on est sur un chantier de Bouygues, vous l'avez tous compris. Bon, c'est la journée porte ouverte sur les chantiers, notamment celui-là, celui de la fac de Jussieu, où Bouygues travaille là depuis un sacré bout de temps, et notamment avec l'utilisation et la surexploitation de travailleurs sans papier qui bossent sur ces chantiers. Alors, c'est pas par hasard que nous sommes sur un chantier de Bouygues. Nous nous sommes donc invités chez ces gros donneurs d'ordre. Nous leur avons demandé une simple chose. Vous, donneurs d'ordre du bâtiment, qui utilisez depuis des années des centaines et des centaines de travailleurs, des centaines de milliers même de travailleurs sans papier sur vos chantiers, vous devez maintenant délivrer des contrats à durée indéterminée à ces travailleurs sans papier surexploités qui vous sont fournis notamment par les boîtes d'intérim. C'est pour ça que nous avons rencontré Vinci, Eiffage, Rabault-Dutilleul et Bouygues. Vinci a déjà lâché une trentaine de contrats à durée indéterminée, notamment pour les camarades de MAN-BTP. Eiffage a commencé à lâcher également des contrats à durée indéterminée. Rabault-Dutilleul également. Le seul qui n'est pas répondu, c'est Bouygues. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sur un de ces chantiers les plus prestigieux. Bouygues ne sera pas exonéré du fait qu'il doit s'engager lui aussi en tant que donneur d'ordre et en tant que pourvoyeur d'embauche de ces travailleurs sans papier surexploités à délivrer des contrats à durée indéterminée pour obtenir la régularisation. Donc nous sommes ici pour exiger que Bouygues nous reçoive à nouveau et s'engage concrètement sur la délivrance de ces CDI. Il doit y avoir régularisation.
Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Moi, par exemple, j'ai ma famille derrière moi ici. Je suis ici en France depuis 2000. Ça fait 8 ans, ça fait 9 ans. J'ai pas vu ma femme, mes enfants. Je sais pas comment il faut dire. Ça fait très très mal. Vraiment, il y a certains ici qui ont fait 15 ans sans aller au pays. À cause de tes papiers. Parce que tu sais pas comment tu vas retourner ici. Donc, nous vivons ici sans droit. On fait les cotisations, on paye les impôts. La sécurité sociale le sait. Le gouvernement le sait. Tout le monde le sait. On ferme les yeux sur ce droit. On en a marre. On en a marre de vivre comme ça, vraiment. Il faut qu'ils nous donnent ce droit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci.
Nous sommes dans un centre de Bouygues, à Zissé. Quand j'ai parlé devant le micro ou devant les caméras, vraiment, je suis très content de leur avoir montré que je suis là. Je suis sans papier. On existe encore là.
Vous avez d'ailleurs le casque Bouygues sur la tête.
Ouais, on a le casque Bouygues. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on travaille avec Bouygues. Vraiment, il faut que Bouygues fasse quelque chose.
Moi, je suis venu avec vous. Un matin, on était fatigués. Il fallait pas que le chef de chantier nous voie. Et aujourd'hui, vous arrivez sur le chantier, vous pouvez vous exprimer.
C'est ma première fois de rentrer dans un sentier de Bouygues pour dire que je suis sans papier. Sinon, ça ne m'a jamais arrivé. Donc, ils le savent très bien. Bouygues le sait, les intérims le savent. On n'a pas la liberté ni rien du tout. En partant au travail, il faut te cacher pour aller au travail. C'est où la liberté? On n'a pas cette liberté. On n'a pas, il n'y a pas l'égalité.
Et venez, on va monter?
Ouais.
D'habitude, vous montez dans ces...
Ah oui, on a les mêmes escaliers, c'est nous là-bas, à Saint-Accès à la Défense.
Là, on est en train de monter les escaliers de l'Algeco.
Ouais.
À notre gauche, on a les bâtiments en construction.
Ouais.
Et là, on est en train de surplomber, donc...
Je vois les sans-papiers devant moi. Donc, des centaines de personnes, des milliers de personnes sur le sentier. On ne les voit pas d'habitude. D'habitude, nous, on ne les voit pas.
Il n'y a personne dans l'agence?
Non, vous voulez visiter le...
Bah, l'origine, c'est déjà qui était prévu, je crois, aussi.
Ben non, là, en fait, c'est occupé par les travailleurs sans papier, qui, d'habitude, travaillent sur le chantier.
Ouais. Ouais. Ils travaillent sur le chantier de Bouygues, bien sûr.
D'accord.
Solidarité avec nous, hein.
Ah, on est là, en tous les cas. Mais normalement, il devait y avoir du monde de la société Bouygues aujourd'hui, non?
Oui.
Et où ils sont, alors?
Bon, ils sont partis.
C'est toi qui sont partis, hein. Parce qu'on a occupé les sentiers, donc je suis sûr qu'ils sont partis.
D'accord, ok.
Vous veniez visiter les chantiers?
J'ai mon fils parce que bon, c'est un grand chantier et je trouvais ça intéressant que lui voit comment justement les gens y travaillent, quoi.
D'habitude, nous sommes au sentier pour travailler avec les marteaux, les pelles, les pioches. Là, aujourd'hui, nous sommes là comme sans papier. On parle de la liberté en France, l'égalité. Il faut que nous aussi, on trouve ses droits. On n'a pas ses droits. Moi, je suis là depuis 8 ans. Je suis un sans-papier. On paye les impôts, on paye les cotisations. Si on est malade, on va où? C'est nous-mêmes qui s'occupent de nous. Parce que nous sommes des sans-papiers, on n'a pas ces droits. Et les cotisations qu'on les fait, ça part où? Je ne sais pas, ça va où? Et pourtant, on travaille, on paye ses droits. Il doit nous donner ses droits. On n'a pas ses droits.
Je vous mets au défi de trouver un salarié Bouygues qui n'est pas régulier. Voilà.
Alors voilà, c'était la journée porte ouverte et c'est une réussite. Les coulisses du bâtiment, ces trois jours-là, montraient un petit peu l'envers du décor pour ceux qui sont venus là. C'était parfait, c'est ça l'envers du décor. C'est ça les coulisses du bâtiment ou alors que quoi d'autre. C'est quand même les hommes qui passent d'abord, non? Non? Oh.
Il y a les photos de ma famille, ma mère... Ouais.
Vous avez une photo sur vous de la
bien
famille
sûr. Ça, c'est la photo de ma mère.
Ça, c'est votre mère?
Ouais, ça, c'est ma mère, ça. C'est ma femme.
Elle s'appelle comment? Elle est belle.
Aminata. Bien sûr, ça, c'est ma première fille. Elle s'appelle Fatimata. Elle s'appelle Fatima aussi.
Et Fatima, c'est la deuxième fille?
Elle n'a pas vu depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, franchement, on en a marre. Franchement parlé. J'ai envie de les revoir. Voilà, c'est pourquoi j'ai amené les photos, pour vous montrer devant et tout. Actuellement, là où je suis, là, ma mère, elle est malade. Elle est hospitalisée. Donc, c'est moi qui m'occupe de ça. Si jamais demain, après-demain, quand les policiers m'expulsent, comment ma mère va devenir?
Si on vous expulse?
Ma mère va devenir comment? S'il n'y a pas de sous pour la soigner, cela veut dire qu'elle va mourir. Voilà.
On a la mort. Nous sommes tous des intermères. On n'a pas de procès nuit et jour. Il y en a même qui passent le samedi et il y en a qui ne prennent jamais de congé. Alors on a la barre, nous demandons à tous et à toutes de se mobiliser davantage et que la lutte continue. Alors le cas de Bouygues est un cas critique. Je ne vous mens pas, Bouygues, c'était dur. Ils sont durs, durs à cuire. Alors nous demandons à Bouygues et à leur directeur et à l'ensemble du personnel de Bouygues de faire un effort, parce qu'ils sont... parmi les têtes des entrepreneurs de France en matière de travaux du bâtiment. Alors si Bouygues aujourd'hui continue à jouer les durs, c'est qu'ils ne veulent pas du tout faire un effort. Et nous demandons à ce que Bouygues réfléchisse et se relie à la cause de régularisation de tous les travailleurs sans papier réunis ici aujourd'hui. Et ce qui est sûr, c'est que la lutte va continuer. On demande à tous que la mobilisation soit au plus fort dans les jours à venir et dans les mois à venir. La lutte ne s'arrête pas ici. Merci à tous.
Merci beaucoup. Merci.
The enemies of Africa are now praying.
J'arrive à la douane, le douanier me dit: en slip chaussette, s'il vous plaît. Je n'ai rien à déclarer. Rien à déclarer. En slip chaussette, s'il vous plaît. En slip chaussette, s'il vous plaît. Je marche dans la rue. Le contrôle d'identité. Le policier me dit: en slip chaussette, s'il vous plaît. La fouille au carré. En slip chaussette, s'il vous plaît. Et il me martyrise. En slip chaussette, s'il vous plaît. Ma dignité.
Donne-moi ma dignité.
The enemies of Africa.
Rendez-moi ma dignité.
The enemies of Africa.
Au-devant des manifestations, le militaire nous tire dessus. Il nous met toujours en slip chaussette.
En slip chaussette, s'il vous plaît. En slip chaussette, s'il vous plaît.
J'ai rien à déclarer.
Oh. En slip chaussette, s'il vous plaît.
Laissez-nous respirer. Oh.
En slip chaussette, s'il vous plaît.
Donne-moi ma dignité.
s'il vous plaît.
Partout au haut,
passe les chaussettes, s'il vous plaît.
Où je vais,
passe les chaussettes, s'il vous plaît.
Ma salle à tête,
passe les chaussettes, s'il vous plaît.
Toujours tu me renvoyais au haut,
passe les chaussettes, s'il vous plaît.
Partout où je vais,
passe les chaussettes, s'il vous plaît.
Tu me dévisages,
passe les chaussettes, s'il vous plaît.
Où que je marche, où que je parle, oh oh oh, ma dignité.
Vous avez compris quand même, hein, depuis le temps qu'on se connaît, le monde est divisé en deux. Il y a les exploiteurs et les exploités. Ça y est, vous avez. Eh ben, c'est plus compliqué que ça, comme on dit. Il y a aussi quand même pas mal de gens qui seraient plutôt du côté des exploiteurs et qui en ont marre. De plus en plus marre et qui balance vraiment. Exemple, Laurence, on va l'appeler comme ça, employée d'une boîte d'intérim.
Vous travaillez dans une société d'intérim, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Ça fait combien de temps à peu près que vous travaillez dans l'intérim?
10 ans, depuis 97.
Et ça consiste à quoi votre travail?
Alors, démarcher des entreprises pour détacher du personnel intérimaire, spécialisé dans le bâtiment. Alors, dans le bâtiment, on a quand même deux secteurs d'activité qui sont bien distincts. On a le gros œuvre et le second œuvre. Alors, le gros œuvre, c'est ce qui est fondation. Donc, le coffrage, la ferraille, le manœuvre. Et le second œuvre, c'est toute la partie, c'est la finition du chantier, en fait. Donc, la plomberie, le carrelage, tout ça. Pour bien distinguer les deux métiers. Les entreprises de gros œuvres, principalement, ils ont toujours traité de marchands de viande parce que on était considérés comme de la sous-traitance, donc un moyen d'exploiter du personnel à un coût moyen. Ça leur évitait d'assumer des conséquences, s'il y en avait. Donc à savoir l'embauche de faux papiers, de personnes en situation irrégulière, ou alors des accidents de travail, des maladies.
Et vous avez travaillé, vous travaillez pour une société d'intérim qui travaille donc directement pour des grandes entreprises comme Bouygues, Vinci, c'est ça?
Oui. Oh oui, tout à fait. On travaille sous forme, on a des accords cadres avec ces entreprises.
Alors les accords cadres, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est?
C'est des accords tacites qu'on a discutés préalablement, principalement sur la façon qu'on va avoir pour embaucher notre personnel, donc ils devront être en situation régulière, etc. Donc c'est une façon pour eux de se décharger. C'est des coefficients négociés, donc pour travailler sur du long terme, on va dire.
Admettons, hein, Bouygues, par exemple, qui fait des accords cadres avec vous?
Oui, tout à fait.
Alors Bouygues arrive et dit, voilà, j'ai besoin de tant d'heures de main d'œuvre, c'est ça?
Tout à fait. Oui, il parle en heures de travail, exactement.
Il parle pas en termes de personnes?
Pas du tout. Non, mais un jour justement, je me suis rendue sur un chantier où j'avais l'opportunité franchement de détacher une cinquantaine d'intérimaires. C'était une première pour moi. Donc j'étais tout de suite impressionnée. Et en discutant avec un des responsables, en fait, il était en train de me parler en linéaire. Je comprenais pas. En fait, il me parlait en heure de travail et en linéaire, c'est-à-dire en nombre de mètres cubes qui vont couler de béton pour construire. Et je me suis jamais représentée sur le chantier. J'ai pas pu. Non, ça faisait vraiment marchand de viande et j'ai pas du tout apprécié.
Ça, c'était quoi? C'était un chantier Bouygues?
Une filiale, mais le même état d'esprit.
Et alors justement, Bouygues, c'est quel état d'esprit?
Donc, rentabilité, déjà dans un premier temps. Ils peuvent se permettre d'abuser de leur pouvoir. Ils ont un gros cabinet d'avocats qui les protège. Ils se sentent surprotégés, donc peuvent se permettre plein de choses.
Comme quoi?
Embaucher déjà sciemment, enfin ils le savent très bien, embaucher du personnel en situation irrégulière. Ça, ils le savent et eux les premiers. Et ils le cautionnent et je le sais. Et j'ai vu de mes yeux. Hein, donc.
Alors expliquez-moi ce que vous avez vu de vos yeux.
Mais écoutez, déjà en premier temps, quand ils nous envoient du personnel qu'ils connaissent, eux, ils nous envoient du personnel qu'ils connaissent dans nos agences pour les inscrire. Donc quand ils arrivent à l'agence, on se rend compte qu'ils ont des faux papiers. Donc soit on rentre dans le jeu, soit on les appelle et on leur dit bah ça va pas être possible. De toutes les façons, si c'est pas avec nous qu'il va, s'il travaille pas avec nous, il travaillera dans une autre agence. Mais à partir du moment où ils peuvent faire porter le chapeau à d'autres, ils vont pas se gêner pour utiliser une main d'œuvre indirecte.
Et donc Bouygues, sciemment, par le biais des chefs de chantier, vous envoie des travailleurs,
oui,
qui sont qui ont des faux papiers.
Oui. Et donc on nous demande de les détacher sur tel chantier, de les déclarer, de leur faire un contrat. Et puis si demain il y a un problème, c'est pas eux qui assumeront les conséquences, ça c'est sûr.
Ils les ont évidemment, ils les embauchent pas directement.
Non, c'est surprenant. Donc ils sont dégagés de toute responsabilité.
Oui, c'est Pascal Pascarillo de France Inter. Vous m'entendez?
Oui, attendez. Oui, j'ai essayé de vous avoir tout à l'heure parce que il y a une interview qui est prévue avec Vincent Nico demain matin, je crois, à 11h.
Oui, qui est DRH de Bouygues. Hein.
Voilà, enfin, qui est un des DRH de Bouygues Construction.
Oui.
Alors, je crois que compte tenu de ce qui s'est passé, on a eu l'interview, hein, très clairement.
C'est-à-dire?
Voilà, je voulais vous prévenir. Je crois que vous étiez à Jussieu, de mémoire.
J'étais sur le chantier de Jussieu, oui, avec voilà, lors des ça. Coulisses du bâtiment.
Voilà, exactement, ouais. Mais enfin, compte tenu du contexte de ce qui s'est passé, on va laisser tomber l'interview de demain.
Attendez, expliquez-moi, parce que là, je tombe un peu dénu.
Les questions que vous avez posées, on est peut-être parano, mais voilà.
Vous me refusez une interview maintenant avec des DRH de Bouygues. Je suis très embêtée. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir une réponse des DRH. J'ai rencontré des travailleurs sur papier qui travaillent pour Bouygues, qui ont des badges Bouygues et qui travaillent sur les chantiers Bouygues. Donc ça, j'aurais bien oui, aimé que vous m'expliquiez.
Ça doit être des intérimaires, parce que je vous mets au défi de trouver un salarié Bouygues qui est pas régulier. Voilà.
Il faut savoir quand même qu'il y a quelque chose entre 200 000 et 300 000 salariés sans papier dans le BTP en France. 200 000, 300 000. Et en principe, officiellement, il n'y a aucun sans papier qui travaille sur les chantiers Bouygues. Alors, c'est quand même costaud, hein, 200 à 300 000 qui sont sans papier et aucun. Bouygues Construction met tout en œuvre pour lutter contre le phénomène des travailleurs sans papier ou détenteurs de faux papiers, nous dit-on dans ce communiqué qui nous parvient donc du service de presse de Bouygues Construction. Le groupe a notamment signé des contrats cadres avec les sociétés d'intérim les plus sérieuses. Ces contrats cadres doivent nous garantir qu'on ne trouve pas de travailleurs sans papier sur nos chantiers. Les procédures de contrôle et les contrôles eux-mêmes sont régulièrement renforcés. Le groupe effectue avec l'aide des préfectures tous les contrôles nécessaires pour s'assurer que tous les personnels étrangers qu'il embauche possèdent des papiers en règle. Le groupe n'a cependant pas les moyens techniques et humains de détecter les faux papiers, passeport, carte d'identité, bulletin de salaire, etc., qui sont émis par des filières de plus en plus organisées. Cela est du ressort et de la compétence des services de l'État. Voilà. C'est clair? Non? C'est pas clair? Eh ben alors, on va essayer d'en savoir plus. Déçu, Pascal Pascariello s'est tourné vers ces travailleurs, ces hommes qui travaillent sur ces chantiers. Et elle a rencontré ainsi Traoré, qui fait partie, bel et bien, de ce dont on parlait à l'instant, de ces travailleurs qui sont assez fiers de leur travail. C'est l'opération transparence. Mais ils n'ont pas que ça à dire.
Ah, c'est beau comme
petit. C'est pas mal du tout. Et puis voilà, il y en a des gens qui ont relogé dedans déjà.
Ah oui, c'est vrai. Il y a déjà des personnes logées à l'intérieur parce qu'on voit des petites fleurs sur le balcon. Là.
Ouais,
balcons, ouais. Des briques blanches et avec des murs de temps en temps saumon.
Au niveau du travail, toute personne, quelle que soit, t'as une situation régulière, quelle que soit, t'as une situation irrégulière, dès que t'as ton poste de travail, il faut essayer de montrer qu'est-ce que t'es capable de faire, quoi. Voilà. J'ai fait connaître mon boulot, j'ai mon métier, mais qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, c'est un papier, quoi. Mais si t'en as pas, t'en as pas, quoi. Voilà. Mais ça t'empêche de t'installer, ça t'empêche de faire plein de choses, et puis voilà, quoi. Si tu veux, on peut aller visiter un autre sentier que j'ai fait, et puis bon, ça m'empêche pas de te montrer. Tous les boulots qu'on a fait, bon, voilà quoi, c'est pas mal du tout, et puis voilà, c'est ça.
ce à quoi vous avez participé et travaillé. Moi, j'ai l'impression que le travail et le fait de construire tous ces immeubles, vous, ça vous tient à cœur. C'est-à-dire que c'est pas rien, quoi.
Entre nous, même les ouvriers et les chefs, au début du chantier, on est dans la boue, on salit partout. Mais arrive un tel moment, à la fin du chantier, il y a certaines pièces comme un bâtiment, comme il dit un appartement témoin. Puis voilà, il y a la moquette, il y a tout ce qu'il faut, mais tu peux pas rentrer, quoi. Mais souvent on oublie entre nous-mêmes, et puis voilà, on pense pas ce qui s'est passé, le moment qu'on était dans la terre, et puis voilà, aujourd'hui, tout le travail accompli. Voilà.
C'est des beaux bâtiments, ça y est, ils sont peints, c'est fini.
C'est des beaux bâtiments, et puis voilà, il est à côté de la route, et tout le monde voit, et bien voilà, même les gens qui passent dans le train, ils voient, et puis voilà, c'est trop bien, c'est génial.
Vous êtes fier?
Pas beaucoup, je sais qu'est-ce que j'ai vécu ici.
Félicitations, monsieur.
Merci. Je suis né au Mali. Ouais. Je suis né au Mali. Il y a une région qui s'appelle là-bas, région de Ségou.
Vous êtes venu quand? Il y a combien de temps?
Moi, je suis là depuis 2001. Voilà.
Depuis 7 ans?
Je suis arrivé, j'étais 23 ans. J'étais embauché avec Bouygues, c'était 2003. Voilà. Ouais, on est chez moi. J'habite ici
Le salon.
Puis il y a la chambre, il y a la toilette, et puis il y a la cuisine, et puis voilà. Quand même, c'est mieux que rien, quoi, mais quand même, je pense qu'un jour, je vais essayer de voir, et puis voilà, si j'arrive à trouver un autre un peu plus grand que ça, c'est bien aussi, quoi.
Pour qu'il y ait une fenêtre dans le salon.
Ouais, voilà, s'il y a une fenêtre dans le salon, et puis tu prends un peu de l'air. Fais les contrats, il est là, direction, ressources humaines et communication. Contrat de travail à durée indéterminée entre la société Bouygues L'Île-de-France SA, monsieur Traoré Bakary, domicile il habite dans Paris, nationalité malienne, carte de séjour, monsieur Traoré est embauché à compte le 3 avril 2003 par la société Bouygues L'Île-de-France en qualité de boisier.
Donc les horaires mensuels 151 heures et le salaire, je sais pas où c'est le salaire. C'est compliqué vos fiches de paye chez Bouygues.
C'est compliqué. Les salaires, t'as déjà un acompte. Bon, ils donnent des acomptes, c'est tous les jours, que ça soit.
Et là, donc, il y a le salaire de 1654 euros. J'ai quelque chose à vous faire lire. C'est ce que disait le père de Martin Bouygues, Francis Bouygues.
Cette main-d'œuvre étrangère est une main-d'œuvre que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a 20 ans que je travaille avec une majorité d'étrangers. Donc, je les connais bien. Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités.
Et ils ont une qualité fondamentale, pour moi, employeur, qui a toute ma sympathie.
C'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler.
Et à la base, ce sont des gens très courageux.
Alors ça, c'est à l'air actif. Mais, par contre, ils
ne parlent pas notre langue.
Ils ne sont pas tellement qualifiés.
Et puis, ils viennent avec une idée en tête. C'est d'amasser un pécule.
Et de nous quitter quand ils auront un pécule suffisant.
Ça n'est pas une main-d'œuvre stable. Et c'est une main-d'œuvre que nous ne pouvons pas former. Et nous n'avons pas l'espoir que si nous la formons, nous pourrons la conserver.
Et finalement, des hommes qui vous apportent leur bras tous les jours et qui laissent leur pays natal à 2000 km, leurs femmes, leurs enfants, leur foyer, disons leur cœur à 2000 km. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment disponible.
Qu'est-ce que vous en pensez?
On laisse notre famille derrière nous. On fait plus que 2000 kilomètres, plus que ça. Mais chaque personne a son propre intérêt. On sait, un directeur d'une entreprise, s'il est tout seul, il peut pas être un directeur. Il y a des gens derrière lui. Si tu vois un président, c'est la population qu'il soutient. Mais quand même, je pense que s'il avait pensé avec ces étrangers-là, qu'est-ce qu'il a fait avec ces étrangers-là? Ils ont gâché leur vie pour lui. Et chaque fin de mois, qu'il pique des pognons. Un patron, il peut pas monter comme ça. Tous les employés que tu vois, tu travailles avec lui. Même s'il te paye 4000 euros par mois, que ça soit ton salaire, il gagne sur ton dos. Et puis au niveau de la paye, il te pique. On sait, l'entreprise, ça monte pas comme ça. Comme les gens disent, tous les, c'est les grands qui piquent des petits, toujours. Ça aussi. Pour entendre des mots comme ça, je pense que ça nous fait de réfléchir, de savoir plus qu'est-ce qu'on doit faire. Mais je pense qu'il ne connaît pas la qualité d'un étranger, quel qu'il soit, son origine. La France, nos grands-parents, nos parents, ils ont combattu. Mais je pense que si vous avez mangé le piment ensemble, s'il y avait le miel, il fallait partager. Mais on n'a pas dans ce cas aujourd'hui. Quelle est la France que j'ai entendu parler? Que nos grands-parents qui sont incarcérés ici, il y en a qui n'ont même pas de jambes, mais on les voit pas. Mais Francis Bouygues, il n'est pas devenu riche pour rien. C'est à cause de ses ouvriers, c'est à cause de ses manœuvres, c'est à cause de ces étrangers qu'il a eu son entreprise. Il pique chaque mois quelque chose. On compte pas, on sait, au niveau de la fiche de paye. Même si c'est 50 centimes, chaque mois il te pique. Mais toi tu vois, tu dis ce n'est rien. Mais tu sais, ça remporte combien? Déjà chez Bouygues, on a fait la réunion à Villepinte. Il y avait presque 6000 personnes. 5900 combien? Pour la réunion, pour la sécurité. Avec tous ces ouvriers. Avec tous ces collaborateurs. Avec tous ces sous-traitants. Avec tous ces intérimaires. On profite. C'est le moment. Mais nous aussi. Tout ce qu'on vous demande, c'est notre régularisation. On n'a pas demandé de nous donner de l'argent. De nous donner autre chose. On a demandé notre droit. Francis Bouygues, t'es parti. Mais quand même, t'as laissé une trace derrière. Si tu blesses quelqu'un, ça peut soigner. Mais un mot qu'on les note, on l'oublie jamais. Nous, on lit nos frères, nos sœurs, nos fils, nos petits-fils, les dans le journal. Et ça continue. C'est vraiment...
Chasse dans les églises, retour en charter, c'est terre rouge contre terre grise.
Tona djuru tegele,
tona djuru tegele.
Touba boube fambe,
touba boube fambe.
Touba boube kono ere.
J'suis du Mali, j'suis en France. Rendez-moi ce que vous avez pris avant la
nouvelle. Moi je bouge pas, non. S'il faut je bouge pas, bouger. Moi je bouge pas, non.
Dans ma zone, blanc, noir, jaune. On quittait Dakar, Pékin ou Arsenal pour la warzone. Et vu que les siècles ont pas suffi pour se mélanger, les sièges pacifistes continueront pour d'éternels étrangers. CRS, CRS, nous pas bouger. On verra le reste, chevaleresse. Si vous voulez, nous pas bouger, nous pas bouger. Au pays, à Montralis, Makin Flouz, y'a pas de blé. Les clandestins peuvent t'assurer que l'argent a un vrai goût de papier. Pas fait gâteau, c'est bien plus clair qu'un immigré choisi. Jadis, il disait noir et peine, le bon tirail. Que voici, oubliés par nos colons. Au fond, nos peuples veulent que l'union. Et s'ils font, ils iront chercher bonheur, même dans la gueule du lion.
Ils sont venus, on peut prier. On construit deux, trois écoles. On a du bol, essaye de me censurer quand j'exprime mon ras-le-bol. Colon, ta descendance me fait une zermie pas possible. Polygamie égale émeute, dites-moi si c'est plausible.
Bouge, bouge pas, non. S'il faut, je bouge là. Moi, je bouge pas, non.
Expliquez-moi un peu, parce que j'ai l'impression que dans la famille Bouygues, on a un rapport particulier avec la main-d'œuvre étrangère.
Bouygues était connu dans les années 50-60, à la fois pour décrier la main-d'œuvre étrangère, il le fait notamment dans un texte qu'il écrit en 1964 en disant que c'est une très mauvaise idée de recourir à la main-d'œuvre étrangère pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre parce que, dit-il, elle est de qualité médiocre. Et en même temps, l'entreprise serait celle qui ont le plus utilisé de travailleurs étrangers à cette époque-là. Et il explique bien d'ailleurs dans une interview qu'il donne à Marcel Tria dans un film qui s'appelle Étranger, que si il avait des Français, il faudrait les payer 25 à 30% plus cher. Les chiffres sont de lui, 25 à 30% plus cher. À cette époque-là, dans les années 60, Bouygues utilisait près de 60% de main-d'œuvre étrangère. Et disait que ça lui permettait d'être à 10% moins cher que ses concurrents.
Nicolas Jounin a publié un livre qui s'intitule « Chantier interdit au public, enquête parmi les travailleurs du bâtiment ». C'est un sociologue, mais qui a eu la précaution de travailler sur ces chantiers. Pendant un an, il a travaillé, il a fait son enquête de terrain, comme on dit chez ces gens-là. Et il s'est immergé et il a apporté ce livre magnifique sur les conditions de travail sur ces chantiers interdits au public. Et sa conclusion, là voilà, c'est qu'évidemment Bouygues, comme les autres entreprises de BTP, dans une parfaite hypocrisie, emploie, utilise et exploite des travailleurs sans papier. Exploite parce qu'évidemment c'est une main-d'œuvre corvéable, disponible, qui n'a absolument aucune défense, puisque s'ils sont pas contents, ils ont qu'à partir. Donc voilà, le sans-papier, c'est avant tout ça, sans parler de l'usage qui en est fait, l'usage politique qui est fait de la figure du clandestin qu'on renvoie à la frontière pour ostensiblement le bouc émissaire pour essayer de plaire à un électorat pris à Le Pen. Ça c'est un aspect, c'est un des usages du sans-papier, mais pour l'essentiel, le sans-papier, c'est d'abord un travailleur exploitable qui permet d'entraver la lutte syndicale, la construction même de syndicats, tant il est vulnérable. De là, évidemment, le courage de ces travailleurs sans papier qui, depuis le mois d'avril dernier, luttent pour leur reconnaissance et pour leur papier. On continue avec Nicolas Genin.
En Bouygues dit on n'a pas de sans-papiers sur nos chantiers, là c'est faux. Donc soit ils mentent, soit ils ne savent pas, mais on peut leur dire c'est faux, ils ont évidemment des sans-papiers sur le chantier qu'ils n'emploient pas directement et ils se retranchent derrière ça. Ils ont eu recours à des agences d'intérim justement pour ça, pour externaliser l'illégalité que constitue le fait d'embaucher des sans-papiers et par suite tout un tas d'illégalités dont le fait de ne pas faire signer de contrat aux gens. Il y a une forme d'externalisation de l'illégalité que constitue le fait d'employer des sans-papiers.
Est-ce que c'est quelques dizaines de travailleurs sans-papiers ou est-ce que c'est quelques centaines?
Par définition, on n'en sait rien, les sans-papiers ne sont pas recensés en tant que tels, donc c'est absolument impossible à dire. Après, bon, on se doute bien que si on retirait tous les travailleurs sans-papiers des chantiers, les chantiers avanceraient beaucoup moins vite ou n'avanceraient plus.
Ça veut dire que si par exemple, chez Bouygues demain, sur les chantiers Bouygues, ils en ont à peu près 700 en France, on retire tous les travailleurs sans-papiers de ces chantiers, les chantiers s'arrêtent?
On peut le penser, d'autant que les sans-papiers sont concentrés, c'est pas comme s'ils étaient dispersés dans tous les métiers et que donc ça, il y avait une sorte de saupoudrage comme ça et qu'on aurait un peu les sans-papiers qui disparaîtraient de tout un tas de métiers. Ils sont concentrés dans certains métiers qui sont pas moins nécessaires que d'autres, notamment les métiers de manœuvre, donc c'est tout ce qui est marteau-piqueur, nettoyage et les métiers de ferrailleur. C'est ce qui permet au mur de tenir concrètement de mettre la ferraille dans le béton armé. Donc comme c'est concentré dans ces métiers, si tous les sans-papiers disparaissaient d'un coup, oui, les chantiers s'arrêteraient.
Les sans-papiers sont ceux qui mettent la ferraille dans le béton, selon Nicolas Jounin. Le point de vue de Jacques Vallet, qui est coordinateur des syndicats CGT du groupe Bouygues et qui occupe un chantier Bouygues à Paris.
Il y a des droits dans ce pays, il faudrait qu'ils soient respectés partout. Quoi. Or Bouygues respecte que dalle. Quoi. Et on est sur un chantier qui doit appartenir aux douanes, si je ne me trompe pas.
Aux douanes?
Oui, aux douanes. Et les salariés qui travaillent sur le chantier se sont mis en grève, parce que c'est les salariés sans papier qui revendiquent la régularisation. Et comme Bouygues refuse de discuter, puisque nous, Fédération, on a écrit à Bouygues pour lui demander de prendre en considération la situation de ces salariés qui travaillent depuis des années chez eux, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de sous-traitants ou d'intérim. Et que Bouygues ne veut même pas en discuter. Voilà, donc nous, on veut qu'il les régularise. Et là, il y en a une partie, mais il y en a beaucoup plus que ça si on prend tous les chantiers de Bouygues, quoi, en fait. Quoi.
Parce que là, il y a 20 personnes.
Aujourd'hui, il y a 20 personnes. On devrait les appeler les travailleurs, tout simplement. Sauf qu'ils sont, sans papier, justement, parce qu'on les met dans cette situation-là, en fait. Parce que c'est leurs outils.
Vous me montrez les travailleurs sans papier en disant c'est leurs outils.
Ben, c'est les outils de ces gens-là. Ils s'en servent comme tels. Et qu'est-ce qu'on fait? Un outil, quand il nous plaît plus, on le jette. Un travailleur sans papier, quand il nous plaît plus, on le jette. Voilà, ils sont considérés comme tels. Je veux dire, c'est là que c'est grave. C'est plus des êtres humains, pratiquement. On les considère pas comme ça. Donnez un exemple, hein. On a des salariés qui travaillent chez Bouygues, qui ont des contrats de mission, soi-disant. Sauf que les contrats de mission, on leur donne quand la mission est finie. Ça veut dire que quand on les fait partir du chantier, on leur dit, voilà, on te donne ton contrat de mission. Ça veut dire que pendant tout le temps qu'ils ont travaillé, en fait, ils n'existent pas. Ils arrivent en accident, ils se cassent la main, ils ont n'importe quoi, la jambe, etc. et tout. Sauf que les salariés, un mort par jour dans notre profession à peu près. Un mort par jour, qui en parle?
Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Personne ne s'en aperçoit quand il y a une grève en France, a dit notre président de la République. Alors, on va finir cette heure avec Fofana, un de ces sans-papiers en lutte, qui raconte son histoire.
Actuellement, je regrette, franchement parler. Je regrette de venir en France. Parce que si je savais que c'était comme ça, je vais vivre 8 ans comme ça ou 9 ans dans les galères comme ça, franchement. Je n'allais pas venir. Maintenant, je n'ai plus le choix.
Ça, vous en avez parlé avec votre femme ou on n'aborde pas ça au téléphone?
Ça, c'est pas, mais... Je regrette un peu quand même. J'ai ma famille derrière moi, il faut les nourrir. Pour les nourrir, il faut faire quoi? Il faut faire un travail. Je suis obligé de faire travail, ce travail-là, même si j'aime pas.
À votre famille, vous envoyez combien d'argent par mois?
Ça m'arrive souvent que l'enfant tombe malade. Souvent, j'envoie 250, même 300 euros par mois. Souvent. Souvent aussi, c'est 150. Ça dépend. Que travailler. C'est tout. Que du travail.
Que du travail, ça veut dire que vous faites que du travail tout le temps dans la vie?
Ouais, que du travail, c'est tout. Que du travail.
Rassurez-moi, le week-end, vous faites quelque chose?
Bon, le week-end, moi, je ne sors pas trop. Parce que j'ai peur toujours de promener. Bon, quand tu n'as pas de papier, tu as peur toujours. Il faut bien regarder avant de sortir. Hein. Je ne suis pas un homme libre jusqu'à présent pour moi, quoi. Je ne suis pas libre.
Vous n'êtes pas un homme libre?
Oui, je ne suis pas un homme libre, moi.
Est-ce que vous auriez aimé naître finalement dans un autre pays pour ne pas être obligé de travailler comme ça, de ne pas faire partie de ceux qui sont obligés de vendre leur force de travail?
Ah, c'est un peu dur. Je me sentais traité comme une esclave. 8 ans sans droit. Sans rien du tout. Je me sens, si vous me demandez, je me sens comme un... Mais je ne me sens pas bien. Je regrette quand même de ne pas aller à l'école, surtout. Parce que peut-être si j'étais parti à l'école, j'allais connaître beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, apprendre beaucoup de métiers et tout. Ben, peut-être que c'est le destin aussi, je sais pas. Moi, maintenant, je veux pas que mes enfants ils deviennent comme moi. Hein. Parce que moi, déjà, j'ai mis mes filles à l'école. Parce que moi, maintenant, arrivé en France, je suis devenu quoi? Une manœuvre. Je veux pas que ma fille arrive ici demain ou après-demain, devenir une femme de ménage ou autre chose. Il faut qu'elle apprenne quelque chose à faire. Moi, j'ai débuté l'école lundi passé, je crois. Parce que ma femme, elle m'a demandé les fournitures, les sacs, tout. Bon, j'ai envoyé l'argent, elle m'a dit, elle a tout payé. J'ai débuté l'école, donc ça va. Ouais. C'était ce lundi, normalement. C'est une situation qui est trop dure à parler, même. C'est pas facile. Mais c'est la vie. Bon, là, je commence à avoir très mal, là. C'est pas bon. Ah, c'est bien. Parce que je pense trop maintenant déjà, donc ça va, quoi. Parce que sinon, la journée, ça va pas être bien pour moi, parce que il y a beaucoup de choses. C'est bien.
Lucie Marlandru.
Oui, bonjour, excusez-moi, Pascal Bascarillo de France Inter.
Oui, bonjour, je vous rappelle, donc suite à votre demande, Martin Bouygues ne donne que très rarement des interviews et il s'exprime quasiment jamais à la radio ou à la télévision, donc je suis désolée, ce sera malheureusement non pour votre demande.
J'aurais bien aimé avoir son avis ou ses réactions, parce que j'ai pu rencontrer des travailleurs sur papier qui travaillaient sur ces chantiers, pas seulement par l'intérim, hein, c'est ça, ce qui était directement salarié à l'intérieur du groupe Bouygues BTP.
Mais écoutez, je suis désolée. Mais il ne s'exprimera pas, il ne vous donnera pas d'interview En fait, il ne s'exprime pas à la radio ou à la télévision, donc c'est pas...
Mais pourquoi? C'est un principe...
Oui, c'est un principe.
Mais pour quelle raison?
Je peux vous rappeler?
Pour me donner la réponse de pour quelle raison il s'exprime pas. D'accord.
Je vous rappelle.
Au revoir.
Elle va nous rappeler, la dame. Pour l'instant, elle n'a pas eu le temps de nous rappeler, mais c'est sûr, hein, elle va nous rappeler. Et on ne manquera pas de vous donner la raison pour laquelle monsieur Bouygues ne daigne pas donner d'explication sur tout cela.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Pascal Pascariello. Merci à Fofana, à Traoré, Laurence, Jean-Claude Amara de Droit Devant, Sud, Jacques Vallet de la CGT, Nicolas Jounin et Marcel Tria. À lire Chantier interdit au public de Nicolas Jounin aux éditions La Découverte et à voir Étranges étrangers de Marcel Tria. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique, Ronan Mahé et Olivier Leroux, réalisation Coyen Guyenne et Raphaël Moutarde, assistante Charlotte Perry, chef du répondeur Agnès Le Bot, laissez-lui vos messages au 01 56 40 37 37.